Vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Les temps à l'urgence sont très longs pour de nombreux patients. Surtout ceux qui n'ont pas de médecin de famille, il faut attendre en fait plusieurs mois pour rencontrer certains spécialistes, par exemple dans le domaine de la santé mentale. L'adoption de la loi 2 désire principalement instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et assurer la continuité de la prestation de ces services. En d'autres mots, plus d'accès aux soins de santé pour tous les Québécois, même ceux sans médecin de famille. Il faut dire qu'il n'est pas rare d'attendre entre 6 et 8 mois pour un premier rendez-vous avec un psychologue. Et même les urgences peinent à traiter tous les patients dans des délais raisonnables. Le gouvernement aimerait ramener ça à 90 minutes. La loi 2, l'ancien projet 106 devenu loi spéciale, vise à améliorer l'accès aux soins de santé de la province, mais le gouvernement cible particulièrement les médecins et leur rémunération dans un bras de fer lié à l'entente de service attendue depuis 2 ans. Cela provoque actuellement la grogne des fédérations des médecins et les négociations sont toujours en cours. Le gouvernement a d'ailleurs suspendu certains articles de sa loi. Alors, comment améliorer l'accès aux soins au Québec? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulions parler de l'accès aux soins de santé au Québec avec l'adoption de la loi 2, une loi spéciale adoptée sous Bayon en octobre dernier. Pour en parler, je suis en compagnie de Mylène Breton, professeure à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Marie-Josée Fleury, professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill, chercheure à l'Institut de recherche en santé mentale Douglas. Bonjour.
Oui, bonjour.
Le gouvernement québécois a adopté sous Bayon en octobre la loi 2, l'ancien projet 106 devenu loi spéciale pour améliorer l'accès aux soins médicaux au Québec. Il cible particulièrement les médecins en rendant 10% de leur salaire lié à des cibles de performance afin qu'un plus grand nombre de patients soient pris en charge. Il est aussi question d'identifier les patients les plus vulnérables plus rapidement. En attendant que les négociations aboutissent, nous voulons parler aujourd'hui à Je vote pour la science de l'accès aux soins de première ligne. Pourquoi est-ce compliqué comme gestion de service? Et on veut souligner aussi l'importance de parler de la qualité des services médicaux offerts. Pour commencer, peut-être, professeur Breton, quels signaux sont les plus préoccupants lorsqu'on observe l'évolution des conditions de pratique médicale au Québec?
En fait, il y a plusieurs signaux inquiétants. On a une problématique très importante de personnes qui n'ont pas de médecin de famille ou d'infirmière praticienne. C'est vraiment un signal très fort. On est les pires au Canada. C'est vraiment une préoccupation. Chaque année, on ne s'améliore pas. Ça fait 15 ans qu'on a montré des signaux jaune-orange-rouge maintenant qui clignotent. C'est une problématique qui commence à faire aussi le même problème dans les autres provinces. On était les pires, puis on continue d'être les pires. Alors, c'est vraiment un signe très, très alarmant de ne pas avoir cette clé-là, parce qu'on est dans un système universel, la base d'avoir un accès à des soins primaires. Puis cette clé, on n'a pas la base dans un système au Canada, même au Québec. C'est très alarmant.
Comment on explique ça?
Il y a plusieurs facteurs. C'est complexe. Notamment, nos médecins de famille, ils ne travaillent pas 100% de leur temps dans des cliniques médicales. Puis ça, les autres provinces, ils dédient plus de temps dans les cliniques médicales, on dit, à faire de la prise en charge. Alors, ça peut expliquer un peu cet écart, bien qu'on ait autant de médecins de famille que les autres provinces. Il y a aussi que la clientèle s'est beaucoup alourdie depuis les 20 dernières années.
Un vieillissement.
Ça s'est complexifié aussi. Tu sais, l'évolution de la médecine aussi. Le 40 ans, on avait des soins ponctuels. Là, c'est vraiment des maladies chroniques suivies, la population plus vieillissante, les problématiques de santé mentale. Alors, ça s'est complexifié. Des éléments. Mais je pense qu'il faut donner un peu de lumière. Notre modèle prédominant au Québec, c'est les groupes de médecine familiale. C'est une équipe interprofessionnelle auquel travaillent des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des infirmières. Alors, on est les plus choyés au Canada parce que notre équipe de base est interprofessionnelle. Alors, je pense qu'on peut se féliciter, mais en même temps, il y a 25 % des Québécois qui n'ont pas la clé, ils ne sont pas inscrits dans ces milieux-là.
Oui, c'est de se mettre en réseau. Il y avait les CLSC aussi, c'était une belle avancée, les CLSC.
CLSC, c'était un modèle extraordinaire, tant théorique que pratique. En 1970, elle a été mise en place. On était visité à travers le monde comme étant un des modèles communautaires, responsabilité populationnelle, engagée dans la communauté. Équipe interprofessionnelle, prévention, promotion. Ça demeure encore un modèle hyper extrêmement riche, même au moins théorique. Le problème, c'est que les médecins ne l'ont pas choisi. Moins de 20 % des médecins ont adhéré à ce modèle-là pour plusieurs facteurs, notamment le salariat qui était attaché à ce modèle-là. Alors, il demeure existant. Les CLSC aussi ont beaucoup des soins à domicile, mais où le lieu qui se voulait, les médecins de famille, le lieu interprofessionnel, ça ne s'est pas concrétisé. D'où pourquoi on a développé en parallèle les groupes de médecine familiale, qui est un groupe de médecins avec d'autres professionnels, mais que ça demeure des entreprises privées. Pour la plupart.
Ah oui, c'est vrai. Professeur Fleury, pouvez-vous nous dire comment se déroule l'accès aux soins en santé mentale actuellement au Québec? Comment ça se passe de ce côté-là?
Bien, c'est sûr que la santé mentale, ça s'encadre dans ce que Mme Breton vient d'actualiser. C'est sûr que la porte d'entrée des services de santé mentale comme des services de santé physique, c'est la première ligne. Donc, ce sont nos omnipraticiens. Bon, il y a des études scientifiques qui nous disent que jusqu'à 90 % des problèmes de santé mentale devraient être pris en première ligne. C'est pas ce qu'on voit maintenant. Je dirais que d'une façon générale, c'est très difficile d'avoir des chiffres justes aussi pour bien comprendre l'organisation de la première ligne. Je dirais que la clientèle des médecins de famille en santé mentale, c'est une des clientèles les plus importantes parce qu'on a aussi cette statistique-là de l'OMS qui nous dit qu'une personne sur trois au cours de sa vie va avoir un problème de santé mentale. Ça veut dire que si là, on est trois, donc ça veut dire une personne dans notre petit groupe. Alors, c'est sûr, cette clientèle-là se retrouve dans les cabinets privés de médecins. Donc, ils veulent pas, ils font face à cette clientèle-là. Alors, le volume est là. Donc, nous, quand on avait fait des études, c'est autour de 20 %, ça peut monter jusqu'à 40 %. Ça dépend aussi toujours, comme je disais, c'est très difficile de voir les chiffres. Il faut creuser les chiffres parce que parfois, on peut parler d'un patient unique qui vient plusieurs fois. Parfois, on peut parler du volume, du nombre, en pensant que souvent, les patients peuvent venir plus qu'une fois. Donc, surtout les patients problématiques lourds comme en santé mentale. Donc, ce sont des patients qui se présentent dans les cliniques médicales. C'est la première ligne. Donc, je dirais que ça représente peut-être de 20 à 40 % de la clientèle vue au niveau des omnipraticiens. Ouais, sinon, au niveau des portes de première ligne, les CLSC, Mme Breton parlait du CLSC. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que quand on a créé le système de santé publique en 1970, comme Mme Breton l'a dit, la porte d'entrée au niveau des soins primaires devait être nos CLSC, qui étaient de grosses organisations interdisciplinaires. Donc, quand on regarde aussi les modèles les plus performants, ce sont des modèles basés sur une pratique de groupe de médecins avec des équipes interprofessionnelles, aussi avec une dynamique locale bien intégrée dans sa localité, approche populationnelle, intégration de la communauté dans la prise de décision. Alors, tous ces principes-là étaient au cœur des CLSC qu'on les a créés. Et peut-être une dernière chose, parce que je ne veux pas prendre trop de place, mais une dernière chose, c'est sûr que le problème dans notre système de santé, c'est qu'on a beaucoup travaillé dans les dernières années sur les structures, sur le public, sur notre structuration publique. On avait à peu près des dizaines d'années, quasi 900 établissements publics. Maintenant, on est rendu à 34 établissements publics. Donc, on a vraiment beaucoup réduit nos établissements publics. On a fait beaucoup de réformes autour des soins primaires, mais malheureusement, comme Mme Breton aussi l'a dit, on a des GMF qui sont peut-être à 70 % des entités privées. On a aussi des médecins qui sont des entrepreneurs privés dans un système de santé public. Alors ça cause problème.
Oui,
même si on veut réformer les choses, on a ces médecins qui sont extrêmement importants, qui contrôlent les prises de décision cliniques, sont extrêmement importants, mais en même temps, on a très peu de sources pour monitorer, les intégrer dans le système de santé.
Oui, GMF, groupe de médecine de famille. Donc, professeur Breton, pourquoi l'accès à un médecin de famille demeure si difficile malgré ces nombreuses réformes? Professeur Fleury a mis quelques jalons là. Il y a eu plein de réformes et pourtant, on en a l'impression que c'est les facteurs structurels qui je ne sais pas, expliquez-nous.
Bien, l'accès demeure difficile, mais en même temps, la population a une très grande croissance. On se rappelle, il y a l'immigration, il y a la démographie aussi qui induit plus de
Mais on est un pays d'immigration, donc on est un pays déjà qui est toujours de toute façon avec ces vagues-là.
Alors, on a un problème d'accès, qu'on le dit, mais on a aussi... Puis il y a des modèles reconnus comme un modèle d'accès adapté, comment on peut travailler avec les groupes de médecine familiale pour organiser...
Oui. C'est quoi un accès adapté?
Un accès adapté, c'est... Je sais d'être très pédagogique, mais c'est de travailler... On dit des fois, on a deux problèmes d'accès importants. Bon, d'avoir un médecin de famille, c'est une première barrière. Puis la deuxième, pour les 75 % des Québécois qui ont déjà un médecin de famille, qui ont cette clé pour avoir des services, ils n'ont pas toujours accès quand ils en ont besoin. C'est vraiment de travailler avec les organisations pour dire, bon, ben, est-ce que c'est un rendez-vous urgent? Si c'est un rendez-vous de suivi ou un renouvellement de prescription, on pourrait attendre la semaine prochaine pour avoir un rendez-vous pour s'assurer que les rendez-vous urgents avec son médecin sont réservés pour des situations urgentes. Fait que c'est vraiment les accompagner à gérer l'agenda, d'avoir des algorithmes d'aiguillage. Quand vous appelez, vous avez une problématique, par exemple, de musculosquelettique, de voir directement le physiothérapeute au lieu de voir le médecin de famille qui va rediriger par le physiothérapeute. C'est vraiment travailler sur la collaboration interprofessionnelle. Fait qu'il y a plein de stratégies pour améliorer l'organisation qui va avoir un impact sur l'accès. Alors, je pense que c'est de travailler avec ces cliniques-là. Il y a une très grande ouverture des cliniques de s'améliorer. Souvent dit, on n'a pas de données. La première source pour s'améliorer, c'est est-ce que je peux avoir des données? Je pense que c'est de mettre ces premiers éléments pour accompagner les équipes. On parle aussi que c'est pas juste des médecins de famille, c'est des équipes interprofessionnelles. On le dit, il y a des infirmières, des pharmaciens. Il y a un enjeu que l'État a sa responsabilité de s'assurer que ces postes-là sont dotés. Il y a beaucoup de postes vacants où il y a fait que si on a cette responsabilité...
Si il nous manque un membre dans cette équipe-là, des fois, ça peut freiner, c'est ça
que je comprends? Bien, surtout, si on dit qu'il est supposé avoir deux infirmières, un travailleur social, puis ils ne sont pas dotés, ça se ramasse que c'est le médecin qui a toujours la responsabilité. Ouais. Alors, on travaille sur la collaboration interprofessionnelle. L'État a sa part de responsabilité de s'assurer que ces postes soient dotés. Et aussi, il faut rehausser les équipes professionnels. Je pense que ça, c'est un message. C'est un travail d'équipe. Il faut s'assurer qu'il y a plus de professionnels dans ces milieux-là.
Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Visitez son site Internet à sciencepresse.qc.ca. Professeur Fleury, de votre côté, comment on évalue la qualité des services en santé mentale? Est-ce que ça prend aussi une équipe?
Ben, c'est sûr que pour avoir un bon système de santé mentale, ça prend, comme je disais tantôt, il y a quand même une capacité de première ligne qui doit être là. Moi, je pense que les modèles qui fonctionnent très bien, c'est des modèles où on est centré sur des groupes de médecine, mais interdisciplinaires, donc d'autres professionnels de soins. Les médecins sont importants dans la prise en charge des troubles mentaux parce que il y a tout le côté de la médication aussi. Bon, le pharmacien pourrait être plus utilisé, mais c'est sûr que c'est des patients comme qui ont besoin d'un suivi, de soutien psychothérapeutique aussi. Donc, ça, c'est très important. Ce qu'on voit aussi en santé mentale, moi, j'ai fait beaucoup de travaux sur les urgences. C'est très intéressant, l'urgence, parce que c'est comme un peu le baromètre de notre système de santé. Moi, je pense qu'on mériterait à mieux observer l'urgence, pas juste avec des critères, parce que soit quand on regarde les indicateurs d'urgence, c'est l'attente, c'est bon, entre-attente, c'est plate, là. C'est sûr que c'est plate d'attendre 20 heures ou 15 heures, mais entre-attente 15 heures, puis pas avoir accès du tout, je ne pas l'attendre 15 heures. Donc, il y a d'autres indicateurs vraiment intéressants là qui sont moins suivis au niveau de l'urgence, comme ce qu'on a vu, nous, c'est qu'on avait une étude quand même assez intéressante avec toute cette une étude qui concerne tout le Québec. Donc, on a travaillé avec l'Institut national santé publique qui ont un système de surveillance des maladies chroniques, puis on a comparé la population qui avait des troubles mentaux à celle qui n'avait pas de troubles mentaux. Ce qu'on a vu, c'était une population qui consultait deux fois plus les urgences. Puis qui était deux fois plus hospitalisée. Puis on a regardé plein d'indicateurs, parce que c'est bien beau de faire l'urgence. Premièrement, je vous dirais qu'il y a environ un tiers, un demi des personnes qui vont à l'urgence qui ont des troubles mentaux qui ne sont pas suivis pour leurs troubles de santé mentale. Fait que là, ces personnes reçoivent, quittent l'urgence, puis n'ont pas plus de suivi, ben c'est sûr qu'ils vont revenir. Nous, on a vu qu'il y avait un phénomène aussi de grands utilisateurs de l'urgence, des personnes qui reviennent souvent à l'urgence parce que sont mal desservies par la population. C'est souvent des clientèles particulièrement vulnérables. Ouais. Ça, c'était quand même important. Là. Ça représentait 17 % au Québec là, de grands utilisateurs de services d'urgence qui avaient des troubles mentaux puis qui consommaient peut-être 50 % ou près de 50 % des ressources de l'urgence et de l'hospitalisation. Ouais. Donc, avec l'urgence, je trouve qu'on peut on peut voir là, entre nous, ça nous donnait le message que c'est sûr ça va pas bien au niveau des soins primaires physiques, ça va encore moins bien au niveau de la santé mentale. Il faut des équipes multidisciplinaires de soins qui prennent plus en charge le patient. On parle de l'accès, mais il y a plein d'indicateurs de qualité qui sont importants, qu'il faut regarder, la continuité, la rencontre des besoins, suivre régulièrement le patient, etc.
Oui, suivre la médication aussi. Oui, professeur Breton?
On met beaucoup l'emphase sur l'accès, puis c'est important. Si on n'a pas accès, bien là, c'est la première étape. Mais je pense que la magie, tous les indicateurs qui donnent justement la qualité, est-ce que je vais aller moins à l'urgence, c'est la continuité. Fait que c'est vraiment la magie de la continuité. C'est éloquent, la littérature, qui appuie ces éléments-là. Si tu connais ton professionnel, on sait que tu vas aller moins à l'urgence, avoir des meilleures interventions, même de promotion. Alors, on dit souvent, juste aller voir sans rendez-vous ou à l'urgence, c'est pas là notre étoile qu'on devrait briller pour organiser nos politiques. C'est vraiment s'assurer que chaque Québécois est un professionnel qui le connaît. Puis c'est quelque chose, c'est une valeur aussi importante. Quand on fait des sondages, les Québécois répondent qu'ils veulent avoir une personne qui les connaît. Et la littérature appuie ces éléments-là, que toutes les retombées vont passer à travers la continuité. Alors oui, l'accès, c'est bien, mais la magie, c'est vraiment à travers la continuité.
Je sais pas si je peux...
Oui, professeur Fleury, allez-y.
Je voudrais juste dire c'est sûr qu'on parle beaucoup des GMF, on parle beaucoup des médecins de famille, des médecins praticiens, ce sont la porte d'entrée de l'accès aux soins. Oui. Mais je voudrais juste aussi que quand on parle de clientèle vulnérable, oui, c'est sûr qu'on parle aussi des équipes de soins autour du médecin, mais on parle aussi, je pense qu'il faut jamais oublier les CLSC qu'on a abordé tout à l'heure, là, qui ont quand même un rôle très, très important dans la prise en charge des clientèles vulnérables, pour les personnes en perte d'autonomie, mais aussi on a des équipes de santé mentale qui ont été mises en place au milieu des années 2000. Ce sont des équipes aussi très importantes qui assument là, du soutien psychosociaux aux patients qui ont des troubles mentaux. Et on a aussi nos organismes communautaires. Je pense que souvent, on les oublie. Des organismes à but non lucratif. On a des centres de crise qui peuvent pallier des centres d'entraide. Alors, ce sont des acteurs aussi très importants. Et c'est important aussi, quand on parle de la première ligne, aussi, je trouve que qu'est-ce qu'on ne parle pas assez, c'est qu'il faut parler de la première ligne en lien avec nos services spécialisés. En santé mentale, je pourrais vous parler juste très rapidement d'une intervention qu'on a mise en place, qui c'est une réforme qu'on a mise en place à la fin des années 2000-2009, qui s'appelle les soins de collaboration. C'est un modèle très intéressant où, en fait, parce que la plupart des psychiatres, on a à peu près 1000 psychiatres au Québec, les psychiatres, donc, allaient épauler les équipes cliniques, donc leur donner un certain nombre de temps. Il y avait donc les équipes cliniques, autant des CLSC que des groupes de médecine de famille, les psychiatres pouvaient les rencontrer et discuter avec eux de cas plus complexes. Parfois, ils pouvaient avoir aussi des visites qui étaient faites avec les cliniciens et le psychiatre. Et l'idée de cette réforme-là, c'était, parce que c'est sûr que les omnis, ils reçoivent toutes sortes de clientèles, ils ont besoin vraiment de développer énormément d'expertise. Et là, ce modèle-là nous dit que parfois, les spécialistes peuvent venir épauler la première ligne pour consolider leur expertise, faire en sorte donc que la première ligne soit mieux capable de dépister, de diagnostiquer, de mieux traiter cette population-là. Fait que ça aussi, je trouve que c'est important. Quand on parle de la première ligne, il ne faut pas parler de la première ligne en silo. Il faut toujours parler de la première ligne qui peut travailler avec les organismes communautaires, travailler avec les CLSC, travailler avec les services spécialisés, travailler avec l'urgence aussi, ou l'urgence l'urgence, les clients qui se présentent à l'urgence, par exemple, sans service, pour être mieux déployés, mieux coordonnés avec les équipes de première ligne.
Oui, oui. Et il faut que, du coup, que les médecins retournent justement discuter. Vous avez, professeur Breton, été mandaté avec d'autres experts et expertes par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour guider l'élaboration d'une première politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne. Quelles sont les recommandations que vous avez délivrées?
En fait, peut-être mentionner que les recommandations s'appuient sur une vaste opération de consultation.
Oui, au début,
on a rencontré
plus
de 60 groupes, dont des patients partenaires, des citoyens. On a fait un forum de consultation. Alors, vraiment, les recommandations des experts s'appuient sur la littérature scientifique, mais surtout par les recommandations dans le contexte québécois. On a fait 6 grandes recommandations, mais les principales, c'est vraiment là, de rehausser les équipes interprofessionnelles. Tu sais,
donc, le maillage dont on parle depuis tantôt.
Puis je tiens à préciser que la première ligne, ce n'est pas juste des médecins de famille, c'est des médecins de famille dans une équipe interprofessionnelle. Mm-hmm. Le projet de loi 2, c'est spécifiquement, exclusivement les médecins de famille. Fait que je pense que il faut revenir avec cette vision-là. La première politique sera annoncée prochainement. Là, je pense que le contexte politique fait en sorte qu'elle est prête, mais elle n'est pas encore annoncée. Mm-hmm. Mais l'idée, c'était vraiment de donner une étoile, le vrai nord, parce qu'on fait beaucoup de réformes. On a mis en place les gaps, les guichets d'accès première ligne.
Oui.
C'est vraiment, moi, j'appelle ça une patch. On va aider les patients qui n'ont pas de médecin de famille à se trouver des consultations. Mais c'est pas l'étoile qui brille. C'est pas de la continuité. C'est du sans rendez-vous. On donne de l'accès aux besoins. Mais en même temps, il faut répondre à ce besoin des patients sans médecin de famille. Alors, mais on a créé une patte. Fait que c'est comment on peut réfléchir à avoir les orientations, le grand nord qu'on appelle pour cette politique. Alors, les grandes recommandations, rehausser les équipes interprofessionnelles, c'est un travail d'équipe. Puis si on met juste, les médecins peuvent le faire, mais il faut s'assurer que les autres professionnels soient présents. On a réitéré l'importance de cette continuité relationnelle, cette affiliation entre un patient et un médecin ou une IPS. C'est la base de tout système à travers le monde performant.
La confiance, finalement.
On a aussi parlé de cibles de performance, mais je tiens à préciser que ces cibles ne sont pas liées à la rémunération, comme annoncé dans le projet de loi. Mm-hmm. Mais c'est vraiment, puis des cibles de performance d'équipe, c'est un travail d'équipe, mais si on veut s'améliorer, puis on dit que c'est important, qu'est-ce qu'on peut se donner? On veut que ces cibles soient identifiées avec les citoyens. Un autre élément qui touche, c'est vraiment important, la décentralisation. On a justement, avec Santé Québec, on a centralisé énormément d'ordonner de la gouvernance territoriale, répondre aux besoins locaux. Comment on peut se coordonner avec les organismes communautaires, les ressources territoriales et plusieurs autres recommandations. Et peut-être un élément, c'est l'historique de notre système de santé. On a basé assurance hospitalisation, assurance maladie. On paye dans notre panier de services couvert par notre carte d'assurance maladie. Oui. L'hôpital, les médecins de famille, maintenant les GMF. Mais cette histoire permet, ça amène des incongruences, justement. Un physiothérapeute, s'il n'est pas dans le groupe de médecine de famille, il y a des GMF qui ne l'ont pas, les groupes de médecine familiale, qui n'ont pas ce professeur. Ça crée énormément d'iniquités. Puis là, si tu as des assurances, tu peux avoir un physiothérapeute. Mm-hmm. Pour ceux qui n'en ont pas, on le réserve. Avec là, le psychologue, la même chose. Mais c'est l'historique qu'on a financé les professionnels. Puis là, je pense qu'il faut revoir si on veut vraiment mettre les balises d'une première ligne. Là, on essaie de trouver des stratégies, toutes les mettre intramuraux dans le groupe de médecine familiale pour permettre aux patients d'avoir accès publiquement. Mais peut-être qu'on peut voir pour avoir des ententes sur le territoire local pour permettre cet accès aux autres professionnels sans que le patient paye pour ses ressources.
Oui, on pourrait parler peut-être aussi prévention, mais là, je voudrais qu'on se mette en mode solution pour terminer. Peut-être, professeur Fleury, quelles seraient les mesures à adopter, les systèmes de santé inspirants et peut-être les bons coups? Là, vous évoquiez peut-être tout à l'heure d'autres modèles internationaux. D'ailleurs, comment on fait pour que ça aille mieux du côté de la santé mentale?
Ben, du côté de la santé mentale, mais je dirais d'une façon générale, là, c'est sûr qu'il y a des facteurs là, clés qui nous disent que les bons systèmes de première ligne, donc qui ont des groupes de médecine, de famille qui travaillent beaucoup en interdisciplinarité, comme Mme Breton l'a indiqué, ça c'est très important. Parfois, je pense à la santé mentale, un patient peut voir le médecin une fois, mais après ça, le patient peut être suivi facilement par les travailleurs sociaux, par une infirmière, par un psychologue. Donc, le suivi peut se faire dans beaucoup de temps par un autre professionnel de soins que le médecin. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'on a un système qui est très centré sur le médecin, mais il y a plein de prises en charge qui pourraient être faites par d'autres professionnels de soins en première ligne. Je pense que les systèmes, comme je le disais tantôt, c'est sûr qu'il faut revoir le mode de financement des médecins à l'acte, mais comme je disais tantôt, très important, par exemple, de pas oublier nos indicateurs de performance, parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs là, autres les études des actes médicaux. Mais aussi, il faut penser à la qualité. Ça, c'est un indicateur important. Et je voudrais peut-être parler d'un vieux modèle, qui est le modèle des soins chroniques, mais qui a été très peu implanté. Le modèle des soins chroniques, il nous dit justement que les médecins doivent travailler en groupe, en interdisciplinaire. Ce modèle-là insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le mesurement best care. C'est faire en sorte qu'on ait des systèmes d'indicateurs qui aident la prise de décision. Ça peut être les patients sont dans les salles d'attente, on peut mettre en place des outils de dépistage, un monitorage des patients, on a des guides de bonnes pratiques sur les ordinateurs qui aident le médecin. On suit aussi les résultats des traitements. Donc, on a très peu implanté là, ces systèmes qui nous permettraient de suivre la qualité des soins dispensés à nos patients, voir si ça a vraiment des effets et des indicateurs aussi qui nous aideraient à suivre qu'est-ce qui se passe en première ligne, est-ce que ça va bien. Donc, je pense que c'est important de travailler vraiment sur des indicateurs qui aident autant les processus cliniques que la gestion. Encore là, aussi travailler sur la coordination, c'est très important entre les GMF, les CLSC, les services spécialisés. Donc, penser à l'ensemble.
C'est entendu. Pour terminer très rapidement, professeur Breton, l'inspiration, peut-être les leviers. Quelles seraient les choses qui pourraient rapidement peut-être faire évoluer les choses?
Spontanément, rapidement, moi, j'abandonnerais le projet de loi 2. Ben, c'est pas un projet. Je trouve qu'on va pas dans la bonne direction. On est comme archaïque. T'sais, on est centré sur les médecins, l'approche paternaliste liée à la rémunération. Je trouve que c'est tous des éléments qui sont pas modernes. Je pense qu'il faut aller vraiment à la mobilisation, l'engagement. On parle d'engager les patients partenaires. On est loin de ça. La rémunération, c'est un élément important, mais il faut vraiment y aller. C'est un travail d'équipe. Fait que moi, je pense que j'irais plutôt sur mobiliser les gens. Les médecins de famille, c'est important de les mobiliser. Là, ils sont complètement démobilisés. Si on veut répondre à une crise, c'est pas par une stratégie coercitive de confrontation, mais vraiment par une approche de dialogue qui inclut tout le monde, les citoyens notamment.
Entendez. Ben, merci beaucoup. Vous venez d'entendre Mylène Breton, professeure à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne. On était en compagnie aussi de Marie-Josée Fleury, professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill, chercheur à l'Institut de recherche en santé mentale Douglas. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartcher. La réalisation et le micro, c'est toujours Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse et plus largement tous les beaux articles de Science Presse, donc à sciencepresse.qc.ca. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.